on était des bons artisans, et ça, c'est un peu le sujet de mes prochains mois, c'est de passer du bon artisan au réel industriel. Donc comment on crée ces routines, ces rituels d'entreprise. Voilà, il y a tout un travail plutôt de structuration et d'essayer de créer le sens dans tout ça.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafon, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Salut Cyril, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. Merci pour ton accueil dans tes super locaux. Première question habituelle, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, je vais très bien. Bonjour Louis, merci de m'inviter sur ton podcast. Je vais super bien ce matin.
Eh bien super. Donc aujourd'hui, on va parler de management dans une entreprise à forte croissance et comment en anticiper les impacts. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Ah ouais, avec plaisir. Moi, j'ai 38 ans, je suis marié avec Florence et je suis papa de deux enfants, Marceau et Adèle. Je suis le cofondateur de deux entreprises spécialisées en cybersécurité que j'ai fait avec mon associé qui s'appelle Julien Coulet. Okay. La première société, elle s'appelle Xcube, c'est un cabinet conseil spécialisé en cyber. Et la deuxième, c'est Augmented CISO. Qui est une solution pour les RSSI, les responsables sécurité des systèmes d'information.
D'accord. Et en quoi ça consiste cette solution Augmented CISO ? C'est une application, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est une application SaaS. En fait, notre solution, elle aide les entreprises à mieux piloter leur protection contre les cyberattaques. En fait, on aide les entreprises et du coup, mon fameux héros, là, les RSSI, les responsables sécurité des systèmes d'information, ouais, à organiser leur quotidien. Finalement, on est ce qu'est le CRM pour les sales ou le SIRH, ouais, pour les RH. On va vraiment pouvoir uniformiser tous les process, capter des métriques dessus, en piloter la performance.
D'accord. Et du coup, votre cible, c'est plutôt les grandes entreprises avec des enjeux de sécurité ou pas forcément ?
Alors nous, on travaille essentiellement avec des entreprises de taille intermédiaire. D'accord. Et des filiales de grands comptes. Les très, très grands comptes ne sont pas encore dans nos cibles, même si ça pourrait venir un jour. Mais ouais, on aime bien cette frange de d'entreprises. Déjà, il y en a pas mal en France et en Europe. Ouais. Et puis, elles ont des enjeux assez intéressants de maturité, de montée en maturité. On aime bien les accompagner là-dedans.
D'accord. Et donc, du coup, pour poser un peu le contexte, ouais, vous êtes une entreprise qui croît assez rapidement.
Ouais, tout à fait.
Donc, vous avez été créé il y a combien de temps ? Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs ? Et quels sont un peu vos objectifs de développement et votre ambition ?
Ok. Pour te raconter un peu l'histoire, donc on a créé une première société avec mon associé là, qui s'appelle Xcube, qui est dans le, ouais, cabinet conseil spécialisé en cyber. Hein. C'est de ça qu'on est issu avec mon associé. C'est une société qu'on a créée en 2018, qui fait maintenant une quinzaine de collaborateurs, okay, avec des consultants, du commerce, du recrutement. Et on a utilisé les revenus de cette première société pour créer Augmented CISO. Donc on a, d'accord, bootstrappé au sein de cette société Augmented CISO. Et Augmented CISO, on a démarré le projet en 2019, début 2019, avec le recrutement de la personne qui est en charge du développement produit, donc tant sur la partie spécification qu'une autre personne sur la partie, mmh, développement. On a fait 18 mois de R&D avec trois sociétés, et puis on a mis en marché septembre 2020.
D'accord.
Premier client en janvier 2021, et maintenant on a, okay, une quarantaine de clients. Et on vient de boucler une levée de fonds 2,5 millions là, fin février, okay, pour nous permettre d'accélérer.
D'accord. Et du coup, sur votre ambition et vos objectifs de développement, vous avez passé à combien de collaborateurs ?
Alors, c'est une bonne question, ouais. Notre ambition, en fait, c'est de devenir la solution leader en France sur ce sujet-là, sur les, okay, 12 prochains mois, et de commencer des expérimentations à l'international. Donc, on commence déjà à discuter avec des gens au Benelux, en Suisse, au Québec. Okay. Donc, on a vraiment ce développement-là. Aujourd'hui, on est un peu moins d'une vingtaine de collaborateurs et l'objectif, c'est de doubler à un an.
D'accord. Ok. Donc oui, vous allez recruter une vingtaine de collaborateurs sur l'année 2022.
Exactement, 22-23, ouais. On se donne un an pour accélérer. Ouais.
D'accord. Et aujourd'hui, donc pour continuer à contextualiser sur la partie recrutement, comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Quel est votre process ? Est-ce que vous faites appel à des cabinets externes ? Comment vous fonctionnez pour aller aussi vite dans le recrutement ?
Alors, pour répondre à ta question, en fait, on a structuré notre processus avec une société qui s'appelle TieUp.
Ok.
Qui est une société qui fait du recrutement en temps partagé, comme il y a des DAF en temps partagé. Et donc, c'est une fille qui nous accompagne, qui s'appelle Karine, qui est assez incroyable. Elle a une énergie de fou. C'est une vraie commerciale dans l'âme. Elle contacte, je crois qu'elle contacte entre 30 et 40 personnes par jour pour aller nous chercher du flux. C'est incroyable. Et donc, on a structuré notre process avec elle. Donc, en gros, c'est très classique. Hein. C'est rédaction d'annonces. Ouais. On pose ça sur les job boards pour que les gens puissent candidater, sur notre site également.
Okay.
On la brief sur c'est quoi la typologie de profil qu'on cherche et elle va chercher ça dans ses bases, etc.
D'accord.
Et puis après, on rentre, une fois qu'on a identifié un certain nombre de CV, de personnes, on rentre dans des choses assez classiques. Elle fait le premier rendez-vous de qualification pour plutôt travailler sur le savoir-être. Est-ce que la personne, elle peut coller aux valeurs de la boîte ? Est-ce qu'elle va s'intégrer dans l'équipe ? Et puis vérifier un premier niveau de compétence, on va dire plutôt technique. Et puis après, c'est rendez-vous avec les managers. Et nous, on travaille un deuxième rendez-vous en général où on fait faire un cas d'étude.
Ouais.
Typiquement, sur du marketing, on va demander comment vous adresseriez tel marché. Sur du sales, on leur fait faire une prise de rendez-vous. On leur fait faire un cas d'étude, un cas de vente, etc.
Ah ouais, parce qu'en plus, vous êtes sur des profils plutôt techniques, sur la partie cybersécurité. J'imagine qu'il faut quand même s'y connaître un tout petit peu, même si on est en sales, en cybersécurité.
C'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, moi, je ne cherche pas des sales qui sont spécialisés en cybersécurité.
Ouais.
Parce que déjà, des sales sur le marché, c'est rare. Alors, des sales en cybersécurité, c'est rare. Et ce qui est rare est excessivement cher, comme on le dit souvent. Ce qu'on travaille, nous, plutôt, c'est-à-dire qu'à la limite, la cybersécurité, vu que ça fait une vingtaine d'années qu'on en fait avec mon associé et qu'on est entouré d'une équipe qui a un bon background là-dessus, on va plutôt leur transmettre.
D'accord.
Donc, travailler avec des cursus internes de formation. Là, on travaille sur un cursus, par exemple, de Sequoin RSSI, mon fameux héros, mon fameux persona, pour plutôt l'enseigner. Non, on va plutôt aller chercher des gens assez experts dans leur domaine, donc dans le domaine de la vente, dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'avant-vente et de l'accompagnement, de la fidélisation, les fameux CSM ou du développement. Et puis, charge à nous, finalement, de les faire monter en compétences dans ce type-là.
Okay.
Et finalement, ça me tire les grosses difficultés qu'on a aujourd'hui dans le recrutement. Déjà, il y a la diversité des profils, c'est-à-dire que tu vas recruter tant un sales qu'un avant-vente, qu'un CSM, que quelqu'un au market, que quelqu'un en finance. Ouais. Globalement, je n'ai pas toutes ces compétences-là. Et donc, du coup, il faut arriver à identifier quelles sont les bonnes compétences qu'on veut, quel est le bon savoir-être qu'on veut et pas se tromper dans le recrutement. Alors, on se trompe toujours un peu, mais pas se tromper. Et donc, ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est de bien comprendre quelles sont les compétences dont on a besoin et de pouvoir les évaluer en entretien. Et puis après, tu l'as dit, le marché est hyper tendu. Hein.
Ouais.
Donc, il y a peu de profils, ils sont beaucoup sollicités.
Oui, c'est sûr. Et donc, une entreprise à forte croissance, donc doubler le nombre de collaborateurs. Si on parle de management, déjà aujourd'hui, comment ça se passe ? Comment vous êtes organisé en interne sur la partie management ? Est-ce que vous avez des outils ? Déjà aujourd'hui, avant d'anticiper les impacts.
Ok. Alors, tu vois, ce que moi j'avais en tête, c'était de dire, on a fait un peu un chemin dans le management et qui correspond finalement à la croissance d'une boîte.
Ouais.
C'est qu'au début, on faisait tout. C'est-à-dire qu'on manageait tout, on pilotait tout, on regardait tout, on faisait
les associés,
tout. Les deux associés, on a commencé, on était deux dans un bureau de 10 mètres carrés, donc on faisait tout, de la conception à la réalisation, à l'exécution, au pilotage. La première étape, donc ça c'était vraiment l'étape zéro du démarrage, la première étape ça a été de dire, on veut pas créer des équipes tout de suite, on veut prendre tout le monde en direct.
Okay.
Il y a deux raisons à ça. C'est un, créer de la proximité avec ces personnes. Deux, on a besoin aussi de se faire un avis, une idée sur, je parlais des fameuses compétences, du métier, de ce que c'est. Donc on a besoin de pouvoir discuter avec ces gens pour comprendre ce qu'ils font au quotidien, qui sont eux experts, et moi je le suis encore pas sur certaines choses, et de comprendre ce qu'ils font pour pouvoir aussi les challenger et les aider à avancer. Donc comment on a identifié ça? En fait, si tu veux, on a découpé l'entreprise en activités. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des responsables d'activités sur chacune des briques. Je vais te prendre un exemple tout simple. La chaîne d'acquisition, c'est celle que je pilote. Donc, on a le marketing opérationnel en amont. Après, on a le commerce. Après, on a la fidélisation. D'accord. Et donc, du coup, j'ai un patron sur chacune des choses. J'ai un patron sur le market, un patron sur le commerce, un patron sur la fidélisation. Okay. Donc, ça a été la première étape de mettre des gens en responsabilité qui avaient en charge de développer l'activité. Et nous, on pilotait ces mecs-là.
D'accord.
Et du coup, la deuxième étape, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de rajouter des gens dans ces équipes-là.
Okay.
Et donc, l'idée, quand on a embauché ces mecs pour être patron d'activité, on leur a dit, préparez toujours le coup d'après. C'est-à-dire qu'il faut que vous prépariez quelque chose. Donc, vous faites déjà votre activité. Hein. Sales, il vend 81% de son temps, 90% de son temps, et réfléchit à l'avenir. Et il faut qu'il soit capable de mettre 10 personnes de plus en 6 mois dedans. Donc, il faut qu'il ait écrit ses process, il faut qu'il soit outillé, que tout soit très, très bien construit.
D'accord. Et donc, tu me disais qu'au début, c'était en direct et après, vous avez mis des responsables.
Ouais.
À quel moment tu as senti le besoin de structurer l'entreprise? Est-ce que c'était en termes de charge de travail, en termes de nombre de collaborateurs? Parce qu'il y avait un moment, en fait, ça a dû devenir
trop compliqué, trop
pesant.
En fait, je l'ai fait plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que je savais en démarrant qu'il faudrait que je structure. Si tu veux, je n'ai pas atteint le point de rupture pour me dire là, j'en peux plus, il faut que je prenne quelqu'un. Et ça, c'est un peu une obsession avec mon associé, c'est toujours de préparer le coup d'après, toujours anticiper, de se dire qu'il y a un moment, on ne sera plus la bonne personne pour faire du commerce, on ne sera plus la bonne personne pour faire du marketing, et que du coup, il nous faut quelqu'un pour le faire.
D'accord.
Donc, il arrive parfois qu'on ait 2-3 mois d'avance sur ce niveau-là, ce qui est très bien. L'impact derrière, c'est que ça consomme un peu de cash, quoi. C'est ça. C'est toujours ça. Mais du coup, ça nous a permis de croître assez vite et d'être assez structuré sur ces différents éléments. Donc, dans ma tête, au tout départ, quand on était déjà deux, on avait déjà identifié ces différentes cases dans l'entreprise. Et en tâche de fond, on cherchait déjà les bonnes personnes. D'accord. Et puis après, quand tu vois que ça devient, que tu commences à te sentir soit en limite de compétences, soit en limite de temps de cerveau disponible pour le faire, tu te dis, là, il faut vraiment que j'y mette quelqu'un.
Ouais, d'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à mettre en place des outils ou des process d'évaluation sur soit de suivi des collaborateurs pour mesurer leur performance?
Alors ça, c'est vraiment le sujet qui nous anime aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire que quand tu as tout le monde en râteau et que tu vois tout le monde toute la journée, c'est assez facile de faire de la pédagogie et du pilotage. C'est-à-dire que tu répètes continuellement, continuellement, c'est pas non plus une rengaine, mais l'objectif que tu dois atteindre et tu pilotes par rapport à ça. Et du coup, ça se fait pas trop mal. Maintenant qu'on commence à avoir de manager des managers, parce que c'est finalement ça, on se pose beaucoup de questions autour de tout ça. Donc il y a des axes de réflexion qui vont être autour de la mise en place, par exemple, des OKR, Objective Key Results, de se dire comment on fait finalement pour partir de notre objectif, nous, d'entreprise, et de le décliner sur toutes les branches. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours. L'autre sujet, c'est que je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus les rituels d'entreprise.
Ouais.
Les rituels et d'entreprise et d'équipe. Donc, on avait, une réunion trimestrielle pour présenter les objets, l'atteinte des objets, célébrer les succès, mettre en avant un certain nombre de collaborateurs. Maintenant, il faut qu'on le descende plus au niveau des équipes. Alors, nos équipes côté direction technique sont plutôt bien structurées là-dedans parce que l'agilité fait que tu le fais assez naturellement. Sur nos autres équipes, on a encore un peu de travail là-dessus. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question sur l'outillage, au-delà d'une gouvernance, c'est-à-dire d'organisation de réunions de façon régulière à différents niveaux, on n'a pas vraiment outillé ça.
D'accord.
Avec des choses au-delà de l'Excel, quoi.
Ok. Et du coup, sur le management de demain chez Augmented Sizeo, est-ce que toi, tu as des premières pistes de réflexion sur comment optimiser le management? Donc, tu me parlais un peu de créer un peu plus de liens, d'augmenter peut-être la fréquence des échanges et des réunions. Peut-être plus de transparence, mais est-ce que tu as d'autres pistes de réflexion pour, euh, voilà, pour optimiser ce management, surtout dans ce contexte de forte croissance où du coup il faut quand même embarquer les équipes, quoi.
Ouais, tout à fait. On a des pistes de réflexion. Les OKR, c'en est une, sans être, à mon avis, la solution ultime autour de ça. Augmenter les rituels d'entreprise, c'est certain. Moi, je crois beaucoup aussi au coaching. Et je pense que là, tu vois, typiquement, on a démarré du coaching commercial, par exemple. On a démarré du coaching marketing. On travaille sur la partie direction technique, sur toute la partie UX. Et on fait coacher les équipes là-dessus. Donc, on croit vachement à ça. On croit vachement à se dire, il faut 6 à 8 mois pour qu'on teste et qu'on expérimente un peu, qu'on se fasse un peu nos croyances sur un sujet, nos convictions sur un sujet. Et puis quand on a des convictions, c'est le bon moment de faire venir des coachs. D'accord. Parce qu'on a des questions, parce qu'on a expérimenté déjà des choses et du coup, on fait venir des coachs là-dessus. Donc ouais, ça, c'est une vraie réalité. Et je pense qu'il faut passer à des choses... On était des bons artisans et c'est un peu le sujet de mes prochains mois, c'est de passer du bon artisan au réel industriel. Ouais. Donc comment on crée ces routines, ces rituels d'entreprise avec tu vois, des entretiens annuels par exemple qu'on faisait mais qu'on ne faisait pas de façon systématique. Comment on structure les one-to-one qui sont faits de façon hebdomadaire mais encore une fois pas de façon systématique. Ouais. Voilà, y a tout un travail plutôt de structuration et d'essayer de créer le sens dans tout ça. Quoi.
Ouais. Et la partie coaching, c'est vachement intéressant, ça. Tu penses que ça marche dans tous les domaines de l'entreprise ?
Ouais, alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que je crois que ça fait un peu partie de notre ADN de se dire qu'on sait qu'on ne sait pas, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que globalement, nous, on venait du conseil. On n'avait jamais développé un SaaS. On ne connaissait pas le logiciel. Globalement, les plus gros livrables qu'on faisait, c'était de l'Excel et du PowerPoint. Et on venait avec beaucoup d'esprit affûté, de pragmatisme, de choses comme ça pour conseiller nos clients, mais on n'avait jamais fait de SaaS. Et donc du coup, on s'est challengé et on se challenge continuellement sur ce type de choses-là.
Ouais.
Et c'est plus issu de notre expérience avec Julien, mon associé, c'est de dire en fait, c'est ce qu'on a fait depuis le début de la boîte. C'est-à-dire qu'on a bossé 6-8 mois sur un sujet et après, on est allé chercher un expert pour nous accélérer.
D'accord.
Tu vois, on est allé chercher un mentor, un mec qui... Alors, je mets le mot coach, mais c'est plus un mentor, quelqu'un qui a déjà fait et qui va du coup t'expliquer, moi, je l'ai fait comme ça, voilà les erreurs que j'ai faites, les difficultés. Et je pense que oui, tous les domaines de l'entreprise sont coachables. Par contre, c'est pas, ça se fait à un moment, donc après de l'expérience, et ça s'arrête à un moment pour qu'on refasse un niveau d'expérience et peut-être derrière, on refera du coaching. Mais c'est pas un truc en continu, tu vois.
Je trouve que c'est vachement intéressant, c'est l'approche de dire on essaye et on fait le bilan de voir ce qui a fonctionné et pas fonctionné.
Exactement.
Pour ensuite identifier ce qui a fonctionné et l'appliquer à plus grande échelle. Quoi.
Mm-hmm.
Ok, et du coup sur les difficultés, est-ce qu'il y a des difficultés que tu anticipes ou qui te semble assez importante du fait de cette croissance très rapide?
Ah oui, il y en a plein.
Il y en a forcément plein.
Du coup, la première difficulté, c'est de mettre des gens en position de management qui n'ont jamais été. Et donc ça, c'est toujours très compliqué parce qu'on peut être un très bon expert et pas forcément un bon manager. Moi, j'en discute souvent avec l'équipe. Enfin, je prends souvent une analogie avec le foot, c'est être manager, c'est pas être le capitaine de l'équipe. Ça, c'est être un leader et c'est important dans le management d'être un leader. Mais le capitaine de l'équipe, c'est celui qu'on met en avant, c'est celui qui brille, etc. Et c'est ce qui attire souvent les gens dans le management. Le manager, c'est le coach. Le coach, c'est celui qui définit le programme, c'est celui qui dit qui rentre sur le terrain et qui rentre pas. Donc c'est des choix difficiles, c'est de la complexité, c'est parfois se mettre en arrière parce que le coach lui il est pas sur le terrain, c'est pas lui qui brille. Et donc c'est ça finalement, en tout cas ma philosophie du management c'est ça, c'est de dire il y a des trucs compliqués, il faut apprendre à faire grandir, il faut prendre des décisions difficiles, il faut faire briller son équipe. Donc ça c'est plutôt la grosse difficulté, c'est de faire monter ces jeunes managers en managers, même si on en a quelques-uns d'expérimentés. Ce qui est lié à ça au-delà de la philosophie, c'est le socle de compétences. C'est de quelles compétences tu as besoin pour être manager. Et aujourd'hui, on les fait un peu au feeling, on va dire ça comme ça, parce que nous, avec mon associé, puis une équipe qui nous entoure, certains de l'équipe qui nous entoure, on a déjà été manager, ça fait quelques années qu'on fait ça. Donc voilà, il faut définir un peu ce socle de compétences. Et puis, il y a un vrai sujet dans la difficulté, c'est comment, moi, en tant que dirigeant, je ne perds pas le contact du terrain. parce que plus on va grandir, plus va y avoir des personnes, etc. Donc comment je perds pas le contact du terrain? Et puis comment, à l'inverse, comment je pousse la vision, la stratégie vers les équipes et que je m'assure que tout soit aligné, parce que ça c'est un vrai, c'est quelque chose de...
Et ouais, et tu as des idées pour garder le contact terrain? Comment tu... Parce que plus vous allez être amené à grandir, plus ça va être compliqué, j'imagine.
Ouais. Alors je crois que j'en ai déjà un poil parlé, mais il y a cette notion de définir ses objectifs avec ses focus qui vont partir du haut et qui vont redescendre, où chacun va se les approprier, définir son propre objectif, hein, les fameux OKR. Et encore une fois, je suis pas encore certain que ça soit la meilleure solution, mais c'est sur ça que j'aimerais travailler. Ces rituels aussi sont importants, parce que quand on fait des rituels, on met en avant aussi les personnes, et donc elles expliquent au quotidien ce qu'elles font, et donc j'ai des retours du terrain. Et puis après, je crois que il y a un des jobs, c'est qu'il faut être au contact, notamment sur les choses informelles. Sur le café le matin, il faut y être. Aller boire un coup avec les collabs, faut y être. Aller déjeuner avec les collabs, faut y être. Enfin voilà, parce qu'on entend des choses, discuter. Enfin voilà, il faut garder ce truc-là. Et je pense que ça, c'est aussi le job d'un manager et d'un dirigeant, c'est de continuer à discuter avec ses équipes et surtout de laisser la place à ce qui te remonte des choses que tu n'es pas prêt à entendre.
Ouais.
Et ça, c'est le plus dur.
Ouais.
Parce que tu vois, le côté où tout le monde te dit oui, ou le côté où tout le monde te dit ok, c'est génial, c'est super, toi ça te fait pas avancer, parce que tu sais pas où sont les problèmes, tu sais pas comment les régler, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis je pense que tu t'appuies aussi beaucoup sur tes responsables intermédiaires.
Tout à fait, tout à fait. Et donc tu vois, dans la culture, c'est aussi de leur dire on a le droit de se tromper, on a le droit d'être pas d'accord. Par contre, quand on s'est aligné sur quelque chose et on est tombé dans un alignement, et par contre on déroule tous dans le même sens, quoi. Je veux voir personne qui tire dans l'autre sens alors qu'on s'est dit qu'on allait dans ce sens-là.
Ouais. Et du coup, tu parles de culture d'entreprise. Comment tu peux garder, ou comment tu vas essayer de garder une culture d'entreprise forte dans une entreprise qui grandit vite avec de nouveaux collaborateurs?
Ouais, alors ça c'est... Je pense qu'il faut travailler sur plusieurs aspects. Déjà, je pense qu'il faut recruter en fonction de cette culture-là.
Ouais.
Parce que et recruter des profils différents, hein, je crois beaucoup à la diversité, parce que ça t'enrichit vraiment. Donc il ne faut pas que ça soit que des gens qui nous ressemblent, mais il faut qu'il y ait des gens qui aient quand même une partie de cette culture-là. Nous, on vient vachement du conseil, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc on a le premium, on a se challenger, se remettre en question, se structurer, ça c'est vraiment des choses qui sont issues de nos 15 ans d'expérience là-dessus. Et on y a rajouté nos convictions aussi avec mon associé, qui sont vraiment la combativité, hein. On est tous les deux issus de sports un peu combatifs. Mon associé a fait du hand, moi j'ai fait du rugby. Donc on a vraiment ça dans le sang. Le côté tester, ça c'est important. Et puis après, se dire aussi, il faut arrêter de tester, quoi. On va dérouler.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas tester non plus. On ne peut pas être en mode test and learn pendant toute la durée.
Donc quand ça marche, il faut y aller, quoi.
Ouais, quand ça marche, il faut y aller, il faut dérouler. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et puis, il y a une notion de plaisir et de liberté qui est aussi hyper importante pour nous.
Ouais.
Parce que c'est quand même pour ça qu'on est parti d'où on est parti. C'est pour ça qu'on a entrepris, surtout. C'était pour y trouver du plaisir au quotidien et y trouver une forme de liberté. Et donc, du coup, le premier axe, c'est de définir un peu le canevas de ça et de recruter aussi en fonction de ça, et de se dire, tiens, est-ce que la personne, elle va coller finalement à tout ça? Moi, en fin de recrutement, en fin d'entretien, je me pose qu'une seule question, c'est... Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Et en fait, ça tire tout. Ça tire, est-ce qu'il a les bonnes compétences? Est-ce que je vais m'entendre avec lui? Est-ce qu'il va s'entendre avec l'équipe? Est-ce qu'il fit avec notre projet? Et ça, c'est important. Donc ça, pour moi, c'est le premier axe. C'est sur le recrutement. Le deuxième axe, c'est de travailler toute la partie, pré-boarding, on-boarding, mais enfin tu vois, dans la phase de recrutement, comment tu transmets ça, dans la phase d'accueil du collaborateur, comment tu retransmets ça en disant voilà les grandes valeurs, et puis les valeurs, c'est toujours un mot hyper connoté, enfin je trouve que c'est un peu un mot valise, on y met tout dedans, mais c'est de dire voilà nous ce qu'on croit, tu vois, un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, et comment ça se décline, comment ça doit se décliner au quotidien, parce que si tu le déclines pas, du coup, ça reste un truc un peu pompe à fumer, tu vois.
On
sait pas trop comment s'en saisir.
Pas très concret, quoi.
Non, exactement. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que je crois beaucoup que la pédagogie, c'est de la répétition, de la répétition et de la répétition. Donc, si on veut passer nos messages, il faut les répéter. Ouais. Et pas en faire non plus une rengaine, un truc, tu vois, où ça devient un dogme complètement, où on ne peut pas en sortir. Mais il faut rappeler régulièrement pourquoi ces valeurs sont importantes, pourquoi elles servent notre projet, finalement, et pourquoi elles permettront aux personnes dans l'entreprise de s'épanouir aussi.
Ouais, donc c'est vraiment du quotidien, la mise en place de la culture d'entreprise.
Tout à fait.
Et la culture aussi, c'est dans une jeune entreprise, c'est l'agilité. Est-ce que le fait de grandir rapidement, tu perds en agilité ?
Ah, ça, c'est toujours la super question parce que moi, j'ai vu des boîtes énormes dans mes missions de conseil qui me parlaient d'agilité.
Ouais.
Et c'était de l'agilité de papier, si tu veux, au sens où les mecs te disaient « Ah non, je passe pas par le process agile parce que c'est plus long que par le process normal.
»
Donc voilà, il y a un truc complètement, tu vois, c'est complètement, il y a un hiatus complet là-dessus. Est-ce qu'on va perdre l'agilité ? Ouais, je pense qu'on va en perdre. Après, il y a des endroits où tu dois avoir de l'agilité. Parce qu'il faut aller vite, tester régulièrement. Et puis, il y a des endroits où tu dois avoir des process plus industrialisés.
Ouais, t'as des exemples ou...
Ah bah je pense qu'en commerce, tu dois pouvoir être plus industrialisé. Je veux dire, sur la chaîne d'acquisition, je veux dire, de l'inbound, de l'outbound, c'est des usines. Les SDR, volume. Donc les gens qui font du cold, c'est des usines.
Ouais,
les sales, c'est des usines. Moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est de dire, tu dois avoir un socle de compétences communes que tu dois respecter. C'est un peu comme en sport, en musique. Tu vois, tu dois faire, avant de pouvoir faire un buff avec des mecs qui font du jazz de façon incroyable, si tu connais pas tes bases, tu connais pas tes bases.
Ouais.
Tu vois, tu peux pas les faire avec eux. Ou comme en sport, tu vois, avant d'aller faire un super match de foot, de rugby, si t'as pas tes bases, tu te feras pas plaisir. Donc il y a un vrai côté, je reviens au coaching, hein, s'entraîner, c'est aussi ça, c'est répéter ses bases. Et pour laisser finalement la place, tu vois, à l'expérience, au talent des mecs, à ce genre de choses-là. Et donc du coup, je pense que sur les aspects... toute la chaîne d'acquisition, ça doit être assez industrialisé, pas au sens carcan, mais au sens le process il est comme ça et on le fait bouger quand il faut. Et après on s'appuie sur le talent des mecs qui respectent le process pour être plus performant. Là où par exemple quand on va ouvrir des nouvelles choses, là on réfléchit à partir à l'international, bah là faut être agile. Tu peux pas dire on y va comme ça grosse Bertha parce que ça va te coûter très cher, parce que tu vas te paumer, parce que tu vas pas avoir les résultats attendus. Développement, c'est pareil. Il y a des choses qui se font de façon très industrielle parce qu'on sait où on va, et toute la partie R&D, tu vois, on est monté des choses autour de la data, de l'analyse de l'usage, de choses comme ça. Voilà, t'es en prospective complète, donc
voilà. Oui, en fait, tout ce qui fonctionne et tu sais que ça marche, tu t'industrialises à fond, et tout ce qui est en test, voilà, faut être agile, prendre des initiatives.
Exactement. Et tu vois, moi je crois beaucoup, enfin dans notre management, et qu'on transmet beaucoup, on croit beaucoup en la responsabilisation. C'est-à-dire que par essence, on fait confiance, on responsabilise, on donne les responsabilités. Il y a deux aspects à ça. Un, c'est valorisant pour les gars qui bossent avec nous. Deux, ça me limite ma charge mentale de façon assez incroyable. Et ça, je t'avoue que c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, et on accompagne. C'est-à-dire, dans la responsabilité, on leur dit pas, tiens, ça, c'est ton code, je veux plus m'en voir. Voilà, mais on accompagne. Donc, on fait, nous, on les coach, on les aide à recruter, on les aide à grandir. On les aide à mettre en place. On va chercher des coachs quand nous, on est en limite de compétences. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus important.
Ok, super. Eh bien, écoute, super intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Est-ce que pour finir, maintenant, les auditeurs ont l'habitude d'avoir une petite recommandation de livre ou de contenu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à partager.
Ouais, alors moi, quand tu m'as posé la question en préparation, je me suis creusé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi, il y a... J'écoute deux podcasts que je trouve assez incroyables. C'est Génération Do It Yourself, qui est, je pense, un must-have de Mathieu Stéphanie.
Tu allais dire Génération Management.
Ouais, voilà. Génération Management demain. Merci. Exactement. Et j'en ai un autre que j'utilise et que j'aime bien, qui s'appelle Cash Out, qui est un podcast sur les mecs qui ont fait, qui ont fait des exits. Et en fait, pourquoi j'écoute ça, c'est que dans mon histoire de « je sais que je ne sais pas », y a des rôles modèles, il y a des gens qui racontent leurs histoires, il y a des choses hyper inspirantes dans ces podcasts-là. Et c'est aussi pour ça que je suis ravi d'être là, parce que si je peux transmettre un petit peu, ou en tout cas donner une petite part de quelque chose à mon humble niveau, ça sera avec grand, grand plaisir. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a deux bouquins, moi, qui ont révolutionné ma façon de voir la vente des solutions SaaS, c'est The Predictable Revenue et The SaaS Sales Method, qui sont deux bouquins très techniques sur presque recettes de cuisine, tu vois, sur comment on met ça en place. Okay. Et quand tu démarres un SaaS et que tu viens comme moi pas du tout de cet environnement-là, ça m'a vraiment, vraiment structuré sur ce qu'il faut mettre en place, c'est quoi les bons indicateurs à regarder, quelles sont les bonnes compétences à aller chercher. Voilà, donc un truc plus inspirationnel, ouais, et un truc très, très, très pragmatique, très proche du terrain.
Ok, super, coup de top, beaucoup de contenu. Eh ben, merci beaucoup Cyril. Ce qu'on peut faire, c'est se revoir dans un an pour avoir le bilan de comment ça s'est passé.
Avec grand plaisir, Louis. J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi, c'était super cool.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci à toi, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.